السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Hier nous sommes arrêtés au chapitre numéro 13, Babu Birrul Walidi al-Mushrik. Naam. Et on a mentionné l'histoire de Abdullah, ou plutôt de Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, lorsqu'il nous dit que 4 versets ont été révélés à son sujet. Il a mentionné que sa mère faisait tout pour qu'il s'éloigne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et renie sa religion, mais il est resté ferme et endurant. Malgré cela, il a maintenu la bienfaisance envers elle. Allah Azza wa Jal a révélé: wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Et s'il te pousse à m'associer ce dont tu n'as pas connaissance, ne leur obéis pas, mais accompagne-les dans ce bas monde selon le convenable. Ici, on comprend clairement que la bienfaisance doit rester. La bienfaisance, le bon comportement, les nobles caractères doivent être maintenus. Mais il ne doit pas y avoir d'obéissance seulement dans la partie qu'Allah Azza wa Jal n'agrée pas. Il n'a pas dit fa'uqahuma, désobéis-leur, sois mauvais envers eux. Non, mais ne leur obéis pas dans cela et accompagne-les dans le reste selon le convenable. Que dire alors si les parents sont pieux, prient, jeûnent, à plus forte raison. Puis nous avons mentionné le hadith de Asma bintu Abi Bakr radiallahu anha, lorsque sa mère est venue et sa mère n'était pas sur l'islam. Sa mère n'était pas sur l'islam. Et elle nous dit wa hiya rariba, et elle désirait. Naam. C'est-à-dire qu'elle désirait ma bienfaisance, elle désirait que je lie avec elle les liens de parenté. Non pas elle désirait l'islam, mais elle désirait en lien avec moi ma bienfaisance. Naam. Elle a donc demandé au prophète alayhi salatu wassalam. Elle a donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afa asiluha, dois-je lier avec elle les liens? Et dans sa question, on voit la motivation des compagnons dans toutes les portes du bien. Et qu'ils questionnaient dans leur religion afin de tout savoir de manière détaillée, pour atteindre l'excellence. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit na'am, lui a dit oui. Donc ça montre la bienfaisance, le fait de lier les liens de parenté, même si les parents ne sont pas sur l'islam. Donc celui qui embrasse l'islam doit savoir qu'il ne doit pas s'éloigner de ses parents. Au contraire, il doit redoubler de bienfaisance maintenant qu'il a appris les préceptes de sa religion, l'islam. Et la bienfaisance et le bon comportement, en plus d'être pour les parents, même s'ils ne sont pas musulmans, à l'égard de la généralité de ceux qui ne sont pas musulmans et qui ne nous oppriment pas dans notre religion, ne volent pas nos terres, ne nous combattent pas, n'attendent pas à notre vie, ainsi de suite. Même s'il n'est pas musulman, na'am, l'islam appelle à la bienfaisance de manière générale. L'islam appelle à la bienfaisance et au bon comportement avec l'ensemble des gens. Naam. Et ceci est même une des plus grandes causes qui invite les gens à entrer en islam. Et dans de nombreux hadiths du prophète alayhi salat wa salam, on voit cela. On voit qu'il a visité l'enfant malade d'un juif. On voit que Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma donnait à ses voisins chrétiens ou bien polythéistes, il leur donnait, il leur faisait passer de la nourriture, et ainsi de suite. Ceci est connu dans les comportements de l'islam, le noble caractère avec toute personne. Le hadith suivant concerne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Abdullah ibn Omar nous dit: « Ra Omar radiallahu anhu hullatan siyara tuba'a. Faqala ya Rasulallah, ibta' hadhi falbasha yawm al-jum'a. Wa idha jaka al-wufud. Qala innama yalbasu hadhi man la khalaqa lah. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. Le hadith suivant est que Abdullah ibn Omar radiallahu anhu nous dit: que Omar radiallahu anhu vit un vêtement de laine à vendre. Il dit au messager d'Allah: achète-le pour toi afin de le porter le vendredi et lorsque te viennent les délégations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: seuls ceux qui n'ont aucune part dans l'au-delà portent cet habit. Cet habit, c'était un vêtement avec par endroit de la broderie de harir, de soie. Il y avait des lignes de soie. Naam, c'est un vêtement où il y avait de la soie. Le prophète alayhi salat wa salam a dit: porte ces vêtements-là ceux qui n'ont aucune part dans l'au-delà. Ceux qui n'ont aucune part dans l'au-delà. Alors nous, les musulmans, ne portent pas, les hommes musulmans ne portent pas ce qui comporte de l'or ni de la soie. Ceci est pour les femmes. Alors, plus tard, on apporta au prophète alayhi salat wa salam d'autres hulal et il en fit parvenir une à Omar. Ce dernier dit alors: comment pourrais-je l'apporter après ce que tu m'as dit? Le prophète sallallahu alayhi wa salam lui dit: je ne te l'ai pas donné pour que tu l'apportes, mais afin que tu la vendes ou que tu l'offres à quelqu'un. Alors Omar ibn Khattab radiallahu anhu l'a envoyé à l'un de ses frères habitant à la Mecque avant que celui-ci n'embrasse l'islam. Celui à qui Omar ibn Khattab a offert ce vêtement, c'est son demi-frère du côté de sa mère, qui se prénomme Uthman ibn Hakim. Uthman ibn Hakim. Et on voit le fait d'offrir un cadeau et de faire preuve de bienfaisance à l'égard de celui qui n'est pas musulman. Plus particulièrement s'il y a un lien de parenté, ou à plus forte raison s'il y a un lien de parenté. On voit également qu'il est bien de porter de beaux vêtements selon ce qu'Allah Azza wa Jal nous facilite, et particulièrement le Jumu'ah, et lorsqu'il y a une délégation ou bien des invités ou autres. Ceci n'est pas blâmable. Et même d'avoir un vêtement particulièrement pour le vendredi. Particulièrement pour le vendredi ou pour les occasions spéciales. Le chapitre suivant Le numéro 14, Babu La Yasubu Walidei. Le chapitre numéro 14, ne pas insulter ses parents. Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Min al-kabair ayashtum ar-rajulu walidei. Faqalu kayfa yashtum? Qala yashtum ar-rajulu yashtum ar-rajula fayashtum abahu wa ummah. Abdullah ibn Amr nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, insulter ses parents fait partie des grands péchés. Les compagnons demandèrent, comment peut-il les insulter? Il répondit, en insultant les parents d'un tel, et ce dernier lui répond en insultant les siens. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce hadith pour avertir contre le mauvais comportement envers les parents, et plus particulièrement le fait de les insulter ou de les maudire. Et cette action immonde et exécrable s'opère de deux manières chez ceux qui sont malades du cœur. La première, ibtida'an, la deuxième, tasabbuban. La première, littéralement, il insulte ses parents. Littéralement, il insulte ses parents. La seconde, il est la cause. Il est la cause. Il ne les insulte pas directement, mais il est la cause qu'on arrive à insulter ses parents. L'auteur a donc mentionné ce chapitre pour nous avertir, pour nous mettre en garde contre ce péché gravissime qui vient à l'encontre de ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné. Premièrement, dans ce hadith, on nous apprend que d'insulter les parents, ça fait partie des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés. Deuxièmement, on voit l'étonnement des compagnons. Quand le prophète alayhi salatu wasalam a dit que l'enfant insulte ses parents, il dit, comment pourrais-je insulter mes parents? Elle dit, ça traverse même pas l'esprit du sahabi d'insulter ses parents. Car celui qui est sur la fitra, sur la saine nature, ne peut faire cela. Donc c'est une chose très lointaine dans leur esprit. Car ils ont compris que insulter ses parents, c'était qu'une seule façon, les insulter directement. Bien que dans certaines contrées, dans certains peuples, dans certains endroits, l'insulte des parents est monnaie courante. L'insulte des parents est monnaie courante. C'est une chose banalisée. Ils manquent de respect à leurs parents. Ils sont virulents. Ils sont irrespectueux. Ils les insultent. Et subhanallah, depuis l'école primaire, on a pu assister à cela de la part de certaines personnes. Ils insultaient leurs parents. Naam, l'un levait la main et menaçait sa mère. Wal'iyadhu billah. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce sont des gens qui ne craignent pas leur Seigneur. Et leur saine nature a été dénaturée. Même si les parents ont une part de responsabilité dans cela, le père de ce dernier était alcoolique et ainsi de suite. Ceci dit, c'est un égarement évident et profond. Donc, le prophète alayhi salatu wasalam leur a expliqué qu'il y avait deux types. Le premier, insulter directement, ce que vous avez trouvé très étonnant. Mais il y a une seconde manière, c'est d'insulter les parents d'une personne, et ce dernier se mettra à insulter les parents de celui qui a commencé. C'est en cela qu'il insulte ses parents. C'est en cela qu'il insulte ses parents, car il a été la cause. Il entre également dans le grand péché. Il entre également ici dans le grand péché. Le hadith suivant Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhum a dit Min al-kaba'ir 'inda Allah ta'ala ay yastasibba الرجل لوالده لوالده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نجي provoquer l'insulte de ses parents par autrui fait partie auprès d'Allah des grands péchés. Yastasibba ayatasabbabu fi sabbi walidayhi aw la'nihima. Donc, Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma nous dit être la cause de l'insulte de ses propres parents fait partie auprès d'Allah des grands péchés. Et l'explication est ce que nous avons étudié, c'est-à-dire qu'il cause du tort à autrui, plus particulièrement en insultant ses parents, et ce dernier se met à insulter ses parents. Naam. Le chapitre suivant, le chapitre numéro 15, Babu uqubatu uquqil walidayn. Le chapitre numéro 15, la punition de briser les liens envers, yani avec les parents, ou du mauvais comportement envers les parents. Quelle est la punition? Abu Bakr radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ma min dhambin ajdaru » أن يعجل لصاحب العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. أبو بكر رضي الله عنه نجيب القبيس صلى الله عليه وسلم أدي Il n'y a pas de péché plus à même de précipiter la punition de quelqu'un ajouté à ce qui lui sera réservé que l'oppression et la rupture des liens de parenté. L'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce 15e chapitre pour nous avertir contre la désobéissance et le mauvais comportement envers les parents en rompant les liens de parenté. C'est un péché gravissime auprès d'Allah Azza wa Jal. Comment cela pourrait-il être autrement alors qu'Allah Azza wa Jal a cité le droit des parents à côté de son droit? Comment cela pourrait-il être autrement alors qu'ils sont la cause de notre venue au monde? Comment cela pourrait-il être autrement alors qu'ils sont ceux qui nous ont accordé le plus de bien après le prophète alayhi salat wa salam? Ici, le prophète alayhi salat wa salam nous dit qu'il n'y a pas de péché où la punition est plus proche du serviteur, c'est-à-dire dans ce bas monde. Puis il nous dit, ajoute à ce qui lui sera réservé, c'est-à-dire dans l'au-delà. Donc là, le mauvais comportement envers les parents est doublement sanctionné dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puis on nous dit, elle barie l'oppression, la transgression envers autrui et la rupture du lien de parenté. La rupture du lien de parenté, briser les liens, avoir un mauvais comportement envers les proches, entre en premier lieu dans les proches, le père et la mère. Ou la mère et le père. Naam, la mère et le père. Et briser les liens, c'est-à-dire couper la bienfaisance qu'on leur accorde. C'est-à-dire rompre les liens. C'est-à-dire mal se comporter. Et tout ce qui entre dans ce terme. Et les liens de parenté, c'est tous ceux avec qui tu as un lien. À savoir les parents, les enfants, les oncles, les tantes, les grands-parents, les cousins, et du plus proche au plus proche. Du plus proche au plus proche. Quant à la belle famille, ils n'entrent pas dans un premier temps dans cela. Mais le bon comportement et la noblesse de l'islam fait que tu vas être bienfaisant envers, par exemple, la mère de ton épouse. Elle va être bienfaisante envers la mère de son époux, le père de son époux, et ses sœurs et ainsi de suite. Pourquoi ? Par rapport au droit de la personne, pas directement le droit de l'autre. Par rapport au droit du conjoint et le bon comportement et le fait de le satisfaire. Donc on voit ici la dangerosité de manquer de comportement envers les parents. Le hadith suivant, selon Imran ibn Husayn, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة قلنا الله ورسوله أعلم قالهن الفواحش وفيهن العقوبة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين وكان متأكئا فاحتفظ قال والزور. Le hadith suivant, selon Imran ibn Husayn, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: que dites-vous concernant les turpitudes? Ou plutôt, que dites-vous concernant la fornication, la consommation d'alcool et le vol? Il répondit: ou bien nous avons répondu, Allah est plus savant. Nous avons répondu, Allah et son messager sont plus savants. Il répondit, ils font partie des turpitudes pour lesquelles il y a des punitions. Voulez-vous que je vous informe des plus graves des grands péchés? C'est donner un associé à Allah, rompre les liens avec ses parents. Alors qu'il était accoudé, il se redressa et dit, et faire un faux témoignage. Ce hadith comporte des faiblesses dans la chaîne de transmission. Un rapporteur est faible et un autre à An'an. Donc, cependant, la partie témoin du hadith a été affirmée comme on l'a vu dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Donc, pour revenir sur ce hadith, qu'est-ce que les turpitudes? Les turpitudes, ce sont les péchés yani, qui sont répugnants, qui entrent dans les péchés gravissimes et qui sont graves. Qui sont graves. Et lorsqu'on nous dit ici pour lesquels il y a une punition, il faut savoir que tout péché a une punition qui y est rattachée. On peut la connaître, on peut l'ignorer. Cependant, lorsque le fils de Adam fait une faute, sachez que il mérite une punition de manière générale. Mais il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne. Si Allah veut, il le châtie. Donc, ça n'est pas pour tout péché qu'Allah punit, même si chaque péché a sa punition. Allah nous dit dans le Coran, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Mais en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Ainsi, la croyance authentique chez les gens de la sunna et du groupe est de dire que celui qui commet un péché, aussi grave soit-il, tant qu'il est en dessous du polythéisme, le pécheur se voit sous la volonté d'Allah. S'il veut, il le châtie par sa justice, et s'il le veut, il lui pardonne par sa miséricorde. Allah Azza wa Jal, soit envers toi, il est juste, il te donne ce que tu mérites, il te punit, soit il te fait miséricorde, de par sa grâce, il t'efface la faute bien que tu méritais la punition. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et ton Seigneur n'opprime personne. Si Allah Azza wa Jal nous punissait tous à l'instant T, il le ferait sans avoir opprimé qui que ce soit. Si Allah nous punissait tous aujourd'hui, il le ferait et n'aurait opprimé personne. Car l'ensemble mérite la punition, car personne ne fait tout ce qu'Allah lui a commandé, et personne ne délaisse tout ce qu'Allah lui a interdit, et personne parmi ce qu'il fait de ce qu'Allah lui a commandé le fait comme Allah le mérite. Wala hawla wala quwwata illa billah. Si ce n'est que Allah est al-Shakur, al-Afu, al-Karim, al-Bar, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui étudie le nom d'Allah al-Shakur comprendra l'essence qu'on vient de mentionner ici. Donc on tire la gravité d'être mauvais envers ses parents. Le chapitre suivant, le chapitre numéro 16. Babu buka il walidayn. Le chapitre numéro 16. Les larmes des parents ou les pleurs des parents. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith sous ce chapitre, ou pardon, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mentionné ce chapitre dans son livre Al-Adab al-Mufrad pour nous avertir contre toute parole, toute action, tout fait et geste pouvant entraîner les pleurs des parents. Pouvant entraîner les pleurs des parents. Donc c'est un avertissement ici, une mise en garde. Tu n'as pas le droit de dire ou de faire, sans cas de force majeure, ce qui va faire pleurer tes parents. Plus encore, tu n'as pas le droit de faire ce qui va amener la tristesse dans leur cœur et ou les irriter. Que dire alors de celui qui arrive au niveau de faire couler leurs larmes? De faire couler leurs larmes. Ce qui t'est demandé, au contraire, et de toujours avoir une haute détermination pour entrer la joie et le bonheur dans leur cœur, pour leur faire entendre les meilleures paroles, pour leur faire voir les meilleurs de nos comportements. Et si, lorsqu'une personne qui a un droit sur toi, tu te dois d'être reconnaissant envers elle et lui faire montrer le meilleur de toi, qu'en est-il des parents? Qu'en est-il des parents qui, eux, ont un droit sur toi qui est incomparable avec l'ensemble des gens, si ce n'est l'époux pour l'épouse. Si ce n'est l'épouse pour l'époux. Le seul qui a un plus grand droit que les parents, le seul, c'est l'époux. En dehors de cela, il n'y a pas une personne présente qui a un droit plus haut sur toi. نعم أنزل الناس منازلهم. Accorder à chacun son rang. Accorder à chacun son droit. Certains pensent avoir une place plus haute que les parents de la personne. Certains pensent avoir une place plus haute que l'époux de la femme. D'autres, et ainsi de suite. On doit connaître les degrés de chacun pour pouvoir nous acquitter de leurs devoirs. Naam. Pour pouvoir nous acquitter de nos devoirs et leur attribuer leurs droits. Mais si tu ne connais pas qui passe en premier, puis en deuxième, puis et ainsi de suite, naam, ça sera problématique. Et tu feras du mal en voulant bien faire. Le premier droit, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Le second droit, c'est le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, c'est la mère. Puis le père. Naam. Et ainsi de suite. Mais, dès lors que la fille se marie, ou que la femme se marie, c'est comme si on prenait le droit du père et de la mère, qu'on l'additionnait et qu'on l'accordait à l'époux. Voyez-vous comme son droit est immense? Mais, vous avez un ennemi déclaré. Mais, vous avez un ennemi déclaré, chères épouses, qui est Shaytan. Et Allah vous dit dans le Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan » Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Naam. Le diable vous appelle à quoi? Il appelle à la turpitude, il appelle au blâmable. Le shaytan vient à cette personne et tente de minimiser la place de l'époux ou de lui faire se concentrer sur ses défauts afin de pouvoir abaisser sa bienfaisance à son égard et le bon comportement. Au même moment, il va lui immensifier des qualités d'étrangers ou de personnes extérieures. Non, pour qu'elles se disent, ces gens-là sont mieux, je vais plus les écouter, les considérer, et lui est moins bien, et ceci. Et ainsi, il y a le désordre. Il y a le désordre dans le foyer, il y a le désordre dehors, et ainsi de suite. Pareillement pour les parents, et Shaitan lui vient et lui fait croire que comme il a fait des études, ou elle a fait des études, ou il a de l'argent, elle est riche, ainsi de suite, et ses parents sont de modestes gens, on leur fait croire qu'ils sont devenus meilleurs. Comme ça, ils vont minimiser le droit des parents, immensifier le droit du patron, le droit de la haute société, comme ils disent, et ainsi il y aura le désordre. Non, le musulman, le rang, il l'accorde selon ce qu'Allah Azza wa Jalla lui enseigne, selon ce que le Prophète sallam a transmis. Et pour ce faire, il faut étudier. Et une très grande règle dans le domaine des droits, c'est que pour pouvoir s'acquitter des droits et observer ses devoirs, il faut savoir que les droits, c'est Allah Azza wa Jalla qui les dispense. C'est pas nous qui décidons le droit de chaque personne et la valeur et la hauteur et l'importance. Non. C'est un droit qu'Allah Azza wa Jalla attribue. Tant que les gens n'ont pas assimilé cela, ils auront un mauvais comportement. Pourquoi ? Lorsqu'ils seront satisfaits, ils se comporteront bien. Et lorsqu'ils ne le seront pas, ils se comporteront mal. Oubliant ainsi, ou ignorant ainsi, qu'ils se comportent mal en réalité envers Allah. Pourquoi ? Parce que c'est Allah qui a mis ses droits. C'est Allah qui a donné ses devoirs. C'est Allah qui a donné ses droits. Barakallahu fikum. Et tu ne pourras mieux agir envers celui qui te prive de tes droits que toi de les observer à son égard. Car tu l'auras battu chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras la haute place et tu seras le meilleur fils d'Adam. L'auteur rahimahullah ta'ala nous cite ici que Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma a dit « Buka'u l'walidayn min al-uquqi wal-kaba'ir » Taï Salah nous dit qu'il a entendu Abdullah ibn Umar dire « Les pleurs des parents font partie de la rupture des liens et des grands péchés. » Je répète, faire pleurer ses parents fait partie de l'ingratitude et des grands péchés. Fait partie de la rupture des liens et des grands péchés. Naam. Le musulman, le croyant, qui entend ce texte, doit avoir peur d'Allah Azza wa Jal pour son passé. Et il doit se remémorer toutes les fois où il a pu être la cause de troubler le cœur de ses parents au point d'en faire couler leurs larmes. Et comme on l'a étudié dans un chapitre précédent, il doit retourner auprès d'eux, sinon les appeler et les faire rire tout comme il les a fait pleurer. Comment va-t-il effacer cela? En demandant pardon à Allah Azza wa Jal, puis en faisant des bonnes œuvres, comme on le sait. Ben la bonne œuvre, après avoir fait pleurer les parents, c'est de les faire rire. C'est de les faire rire. Et de ne pas les quitter, si ce n'est en leur ayant redonné le sourire, tout comme ils ont pu perdre le sourire. Wala hawla wala quwwata illa billah. Même si c'est involontaire. Même si c'est involontaire. Par exemple, tu dois voyager et tu n'as pas le choix. Naam. Même si certains disent on a toujours le choix. Il doit voyager pour se soigner. Il doit voyager pour le travail. Naam. Il doit voyager pour la recherche de la science obligatoire. Et ainsi de suite. Ses parents sont tristes au point de pleurer. Est-ce qu'il part dans ces conditions? Non. Il les embrasse, il les câline, il leur laisse de l'argent pour leurs besoins, ou laisse de l'argent à ses frères pour s'occuper d'eux, ou à ses sœurs, ou à ceux qui vont prendre soin d'eux. Il dit qu'il revient le plus vite possible, il dit que c'est sécurisé, qu'ils n'ont rien à craindre, il dit qu'il est joignable, toute parole qui va les apaiser. Il plaisante avec eux, il détend l'atmosphère, comme on dit. Et il ne part que lorsqu'ils sont apaisés. Il ne part que lorsqu'ils sont apaisés. Tout en ayant pris soin et en ayant veillé à leurs besoins. Celui qui a ses parents ne peut voyager, si ce n'est après avoir été certain, naam, qu'ils ne manqueront de rien. Qu'ils ne manqueront de rien. Si l'homme noble fait cela pour son épouse et ses enfants, qu'il sache qu'à plus forte raison doit le faire pour ses parents, et encore plus s'ils ont atteint un âge avancé. Encore plus s'ils ont atteint un âge avancé. Hada wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ceci étant dit, mes très chers frères, nous sommes dans le noble mois de Ramadan. Et parmi les meilleures œuvres dans le mois de Ramadan, il y a la lecture du Coran. Il y a la lecture du Coran. Et il y a le fait de nourrir des jeûneurs. Il y a le fait de nourrir des jeûneurs, mais également toute personne dans le besoin. Mais également toute personne dans le besoin. Et très nombreux sont les textes qui sont venus dans ce sujet. C'est-à-dire it'am ou ta'am, c'est-à-dire le fait de nourrir des gens, de faire des aumônes ou des cadeaux afin que les gens puissent manger. Et dans le Coran et dans la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala nous a encouragés à cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous a encouragés à cela. Et avant même l'islam, dans la jahiliya, c'était connu. Naam, c'était connu. Comme dans le hadith de Adi ibn Hatim, lorsqu'il a dit au messager d'Allah, « Certes, mon père liait les liens de parenté. Il honorait l'invité. Il faisait. » Naam. Et lorsque Aïcha radiallahu anha dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ibn Jud'an, dans la jahiliya, il est lien de parenté, il nourrissait les pauvres, et il faisait. Donc c'est des choses qui étaient déjà connues. Et comme a dit Khadija radiallahu anha, quand elle a secouru le prophète alayhi salatu wassalam, et l'a apaisé, rassuré lorsqu'il a reçu pour la première fois la révélation, Wallahi la yurzik Allahu abadan,
Par Allah, Allah ne t'humiliera jamais. Wallah, innaka la tasilu al-rahim, wa tasduku al-hadith, wa tahmilu al-kal, wa taksibu al-ma'doum, wa tuqri al-dhaif, wa tu'inu ala nawa'ib al-haq. Elle a cité ses qualités, et parmi cela, le fait qu'il aidait les gens dans le besoin, et honorait les invités. Et le premier hadith qu'on se rappelle est le hadith d'Abdallah ibn Amr, ibn al-As, radiallahu anhum. Lorsqu'un homme a demandé au prophète, alayhi salam, « Ayyul islami khayr ?» Quel est le meilleur islam ? Le prophète, alayhi salam, a répondu, « Tut'imu al-ta'am, wa tuqri'u al-salam, ala man arafta wa man lam ta'rif. » Tu nourris la de nourriture. Tu donnes aux gens à manger. Tu donnes à manger aux gens. Tu passes le salam à celui que tu connais et celui que tu ne connais pas. Pas comme certains font, ils passent le salam que à ceux qu'ils connaissent. Un deuxième hadith. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Ahabbul a'mal ila Allah azza wa jal. Donc on voit de cela que c'est le meilleur islam. Deuxièmement, c'est un des actes les plus aimés chez Allah. En effet, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Ahabbul a'mal ila Allah azza wa jal sururun tudkhilu ala muslim wa tukshifu anhu kurba wa tatrudu anhu ju'an aw taqdi anhu dayna. Rawahu at-Tabarani fil kabir. Écoutez, pour finir, et on reviendra sur ce sujet, incha'Allah ta'ala. Les actes les plus aimés chez Allah Azza wa Jal, une joie que tu fais entrer chez les musulmans. Une épreuve que tu dissipes de lui, et une faim que tu lui enlèves. Et une dette que tu payes pour lui. Voici les actes les plus aimés chez Allah subhanahu wa ta'ala. On s'arrête sur cela et on demande à Allah Azza wa Jal d'accepter notre jeûne et nos bonnes œuvres. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.